fait, pour un précis, le principe du méthode que nous avons choisi et qui nous a fait découvrir que dans le récit historique, de la Torah et en particulier dans le livre de Bréchit de la Genèse, et tout se passe comme si c'est la même histoire qui est racontée deux fois, une par l'échelle universelle, générale. La Torah décrit les thèmes d'identité humaine que l'histoire de l'homme doit tenter de résoudre. Et ce premier récit global, général, universel, qui ne concerne pas Israël en particulier, qui prend son point de départ à l'histoire du premier homme, nous est plutôt décrit dans une perspective que la lecture montre inévitablement comme pessimiste, comme nous l'avons dit hier. C'est-à-dire que c'est aussi le fond, les équations fondamentales, en particulier l'équation Caïn-Abel, dont je vous ai rappelé encore hier, et ça mène à l'échec. C'est-à-dire que là, comme si il y a un problème surhumain que l'homme a à résoudre et qu'il n'arrive pas à résoudre, et à un certain moment apparaît une identité humaine particulière à partir d'Abraham, et qui reprend ces mêmes thèmes d'identité dans la perspective d'une espérance, comme nous l'avons dit hier. C'est plus qu'une espérance, c'est la certitude d'un aboutissement. Ce qui fait, si vous voulez, la force d'élan vital, comme dirait Bergson, qui rencontre l'histoire d'Israël, depuis Abraham, Isaac, Jacob et jusqu'à nous. L'identité d'Israël a pu traverser toute l'histoire, c'est qu'elle est sous-tendue, pas seulement par une espérance, mais par une certitude. Mais dans les commencements du récit, ce qui apparaît, c'est bien évidemment la perspective d'une espérance. Et je pense que ça vaut la peine de réfléchir sur ce principe, c'est-à-dire l'analogie très proche des thèmes d'identité que le récit développe, lorsqu'il parle premièrement de l'histoire universelle, puis deuxièmement du dedans de cette histoire, à partir des patriarches, des pères d'Israël, l'identité d'Israël à proprement parler. Et était apparue, sur le deuxième point, une péripétie très importante, lorsque la relation de frère à frère ne peut pas être résolue. Et alors il y a deux stratégies possibles, ou bien, deux stratégies. En réalité, une stratégie. Il y a deux possibilités, soit Abel reste chez Caïn, et alors il est le manger. Soit, et c'est là l'équation avec Jacob et Esaü, Jacob s'enfuit pour se mettre à la marche. Donc, nous avons eu un certain nombre de mises au point hier à ce sujet. Je pense que ces questions reviendront inévitablement. Enfin, ceci n'était qu'un principe de méthode. Et je voulais surtout aborder le problème d'exégèse. Je vous avoue que je suis un peu, perplexe de savoir à quel niveau aborder ces problèmes. On essaiera quand même de suivre le texte de la façon la plus stricte. Et le premier problème qui se pose à nous à la lecture du verset, c'est la manière dont la Torah définit l'endroit où Jacob va se rendre, vers lequel il se dirige. Reprenons le verset. Vayetse Yaakov mi Beersheba, et Jacob sortit de Beersheba, Vayelech Harana, et il partit en direction de Haran. Le mot qui désigne la ville, c'est Haran. Le He que vous avez à la fin du mot désigne la direction. Haran, Harana. Harana en direction de Haran. Et c'est bien évidemment le sens strict de ce mot. Mais dès que nous nous renseignons sur les questions que se sont posées les Midrashim et les commentateurs, en particulier celles que Rachid va nous récapituler, alors nous voyons qu'il y a là un problème à résoudre. Prenez immédiatement ce que dit Rachid sur l'expression Vayelech Harana. Et il partit en direction de Haran. Alors, vous avez la page 1123 sous les yeux. C'est à la fin de la première ligne dans Rashi. Vayelech Harana, les trois derniers mots de la ligne. Que Yatsa, l'alechet, les haram. Alors Rachid dit, voilà ce que signifie. Et il partit vers haram, ça signifie Yatsa, il sortit, sous-entendu de Bercheva, l'alechet pour partir, les haram, à haram. Je répète la lecture de Rachid, nous allons tout de suite nous apercevoir que Rachid apparemment ne fait que répéter ce que dit le verset. Et le verset dit, Vayelech Harana, et il partit en direction de Haran, dès sa sortie, après être sorti de Beersheba. Et puis Rachid revient sur l'expression du verset et nous dit, Yatsa, il sortit, sous-entendu de Beersheba, l'alechet pour aller, pour partir, le Haran à Haran. Vous entendez bien qu'on ne perçoit pas du tout ce qu'on devrait appeler le chidouche, c'est-à-dire le renouvellement de sens que Rashi propose. On n'entend pas ce que Rashi veut dire. Est-ce que c'est bien clair, la question? Je vais mettre ça derrière au tableau. Alors, le verset dit, Vayelech Harana, et le A de la fin de Haran signifie vers. Donc Harana signifie vers Haran. Et Rashi nous dit, Yatsa, la lechet reprend Vayelech, et les Haran. Rashi change le A de Harana par le Lamed de l'Eharan, mais qui signifie exactement la même chose. D'ailleurs, dans d'autres versets qui reprennent les mêmes problèmes formels de direction d'un endroit, Rashi cite la règle même du Midrash qui dit « Chaque fois qu'il y a un « he » à la fin, il y a un « lamed » au début. » Ou c'est comme s'il y avait un « lamed » au début. Apparemment, donc, il y a là une règle de grammaire simple, et puis on se préoccupera de savoir quelle est l'intention de l'enseignement de Rashi à ce sujet. Alors, bref, comment on parle de problème. Le verset dit Vayelech Harana, et Rashi dit Yatsa l'alechet et Harana. Vous avez dans le corps du texte, je l'ai surtout préparé pour les érudits parmi vous, mais vous verrez énormément de sources que nous n'aurons pas le temps de voir en détail. Mais énormément de sources, et le commentaire du Torah Shlema, qui est le Rav Kahana, qui est l'éditeur du... Le Rav Kasher, qui est l'éditeur de cette anthologie, et il doit être d'ailleurs Rav Kasher, qui donne un commentaire de dérudition très poussée. Mais peut-être nous aurons l'occasion déjà encore dans les cours qui restent de voir certains détails à la loupe, si vous voulez. Ça, c'est un sujet qui en vaut la peine. Eh bien, nous avons déjà découvert en introduction à ce problème que, en fait, dans le chapitre précédent, il y avait deux motivations du départ de Jacob. La motivation du chapitre 27. Qui est le fait que Rebecca engage Jacob à aller dans sa famille, chez Laban, à Haran. Mais l'endroit n'est pas appelé... dans le chapitre 27, l'endroit est appelé Haran. Alors que, pour se mettre à l'abri de la colère des Grecs. Alors que lorsque Isaac engage Jacob à quitter Eretz Israël pour aller dans le même endroit pour se marier, le texte le nomme Padan Aram. Je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il pourrait tenir comme introduction à notre sujet. C'est-à-dire, lorsque la motivation est le mariage, alors l'endroit est appelé Padan Aram. Lorsque la motivation est la fuite de la haine et de la colère d'Ésaü, l'endroit est appelé Haran. Et donc, si nous revenons sur le verset ici, avec l'aide de Rashi, le sens apparaîtra de la manière suivante. Et Jacob sortit de Beersheba, et il alla en direction de Haran. Rachid, il sortit de Beersheba. Nous pourrions croire que c'était pour aller à Padan Aram, mais en réalité, Yatsal alechet le Haran. Il est sorti de Beersheba pour aller à Haran. Quelle est la différence? C'est la différence de motivation. Puisque c'est le même endroit, Padan Aram et Haran. Et donc, l'indication de Rachid à ce propos serait de nous indiquer le changement de motivation du voyage de Hédès. C'est la raison pour laquelle il fallait d'abord réfléchir sur la raison de ce changement de motivation. C'est-à-dire, normalement, on pourrait supposer, c'est là que se passe d'ailleurs cette parenthèse de 14 années entre la scène de la substitution de la bénédiction, la scène précédente, vous vous rappelez de la note que nous avons eue hier, et le départ lui-même. On pourrait supposer que la véritable raison du voyage, c'était le mariage, mais voilà qu'entre-temps, une péripétie supplémentaire intervient, et c'est vraiment de la rivalité d'Ésaü dont Jacob doit se garder, et par conséquent, le kivoun, la matara, l'objectif de son voyage, devient de façon récessive le mariage, et de façon dominante, si vous voulez, la mise à l'abri. Un des commentateurs de Rashi, que vous trouverez dans la grande série du Kouvarier, l'indique de la manière suivante. Yatsa, la lechet et haran. Nous pouvons le voir de façon plus fine encore dans les trois mots de Rashi. Dès sa sortie, Yatsa, la lechet et haran. Dès sa sortie de Beersheba, Jacob a l'intention d'aller à haran. Nous verrons dans une des péripéties texte, le verset suivant, le verset 11, il est arrêté à un endroit sur lequel les commentateurs nous font hésiter un peu, qui est la Hara Moria, l'endroit où le temple sera construit, ou bien Bethel, qui est un peu plus loin vers le sud, en direction de la mer Nord. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu la direction de Ophra, c'est un peu par là-bas, Bethel. Et on pourrait croire que il se rend à Jérusalem, là où il y aura la scène du rêve, mais en réalité, il y a ça dans le Lechet le Haran. C'était bien Haran qui nous l'avait directement, mais il aurait été stoppé dans son voyage. Et je vous ai cité là deux nuances simultanément. Dès la sortie de Beersheba, il a l'intention dans le Lechet le Haran, d'aller vraiment à Haran, et pas à Jérusalem ou à Bethel. Et puis d'autre part, ce que l'introduction que nous avons hier nous fait découvrir profondément, la motivation de son voyage a changé. Parce que la rivalité d'Ésaü a été renforcée par ce demi-repentir d'Ésaü dont nous avons parlé hier. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Tout va bien? Alors, nous pouvons déjà peut-être anticiper sur le récit pour essayer de réfléchir à la signification même de la ville Haran telle que le Midrash en a parlé. Qu'est-ce que nous savons déjà de Haran? Eh bien, c'était l'étape à laquelle la famille d'Abraham, sortant de Ur Kasdim, s'est arrêtée. À Haran, toute la famille d'Abraham s'arrête. Il y a émigration, c'est pas le mot, enfin disons, fuite de Ur Kasdim. Ur Kasdim est une civilisation devenue dangereuse où on jette Abraham et sa famille dans la fournaise de Ur Kasdim. Vous voyez l'analogie sur laquelle il ne faut pas trop encore insister. Et puis Abraham s'enfuit de Ur Kasdim. Avec toute sa famille. Et puis, toute sa famille est stoppée à Haran. Elle est bloquée à Haran. Si vous voulez, l'étape avant la frontière du pays de Canaan, avant la frontière de l'Israël. Seul Abraham et Lot quittent Haran pour rentrer en l'Israël. Ensuite, nous avons fait une nuance là hier, Abraham et Lot se sépareront, mais nous avons déjà une indication historique dans les textes précédents. Haran, nous savons où c'est. Le Midrash va revenir sur la signification du mot pour désigner l'endroit. Ce mot n'est pas neutre, en hébreu, il a un sens. Alors nous allons voir la scène qui se passe lorsque Jacob arrivera à Haran et rencontrera les habitants de l'endroit. Il y a un dialogue en quelques mots. Il me semble avoir peut-être cité une fois dans une analyse, mais je ne me souviens plus quelle année. En tout cas, selon ce groupe qui sont déjà au courant de ces études, vous retrouverez sous forme de chidouche. Alors prenez le texte dans le livre de Bereshit, au verset 4 du chapitre 29. Et là, à la page 129. Verset 4, la troisième ligne de la page 129. Alors, vous relirez à l'analyse que nous allons avoir une référence que vous avez à la page 1122 dans votre texte d'érudition sur le Médrash de Bereshit Rabba, qui nous est donné au paragraphe 40 même. Nous allons y référer tout à l'heure. Nous verrons aussi le Midrash 42 tout à l'heure. Alors, voici ce qui se passe. Alors, Jacob, en fin de compte, après la scène du rêve et le contrat historique qu'il y a entre Dieu qui se révèle à Jacob et Jacob, l'histoire d'Israël va commencer. Elle commence d'abord par l'exil, et nous verrons quelle est la signification historiosophique de cette structure révélée à Jacob en préfigurative. Jacob, à l'avance, bien que d'étape en étape, plus ou moins confusément, surtout au point de départ, part en voyage, un long voyage qui mènera jusqu'à la fin des temps, mais avec une sorte de programmation de ce voyage, qui est donnée d'abord de façon globale, générale, et donc vague, obscure, et au fur et à mesure des péripéties, la vision de la prophétie s'accommode de façon beaucoup plus précise et dévoile le contenu de cette structure qui est donnée d'abord a priori dans la structure générale du rêve de l'échelle. Les anges qui montent et qui descendent et ça surtout le contenu de l'étude de détails. Et il arrive à Haran. Alors là, il y a un dialogue que nous allons lire à partir du verset 4. Vayomer lahem, Yaakov, et Jacob leur dit, il s'agit des bergers qui sont rassemblés autour d'un puits à Haran. Et Jacob leur dit, Ahai, mes frères, Mehainatem, d'où êtes-vous? Vayomru, et ils répondirent, Meharan anachnu, nous sommes de Haran. On est tout de suite étonné. Jacob sait très bien où il se trouve. Mais quel est le sens de cette question? Il y a des bergers. Vous verrez vous-même le verset précédent. Il y a des bergers qui doivent se rassembler tous pour avoir ensemble la force de lever une pierre qui cache le puits d'où on prend l'eau pour donner à boire aux bergers. Là, et nous verrons que des explications sont données. Il faut que tous les bergers soient rassemblés pour que le puits soit disponible. Mais lorsque Jacob arrive et voit Rachel arriver, Jacob, comme un héros du récit, tout seul, arrive à lever la pierre et à donner à boire à tout le monde. Vous comprenez déjà, si vous voulez, le thème qui est en filigrane dans ce texte. Et alors, c'est là qu'apparaît le dialogue. Jacob s'adresse aux bergers qui sont rassemblés auprès de ce puits à Haran, et leur dit, « Mais Aïnatem, d'où êtes-vous ?» Mais Haran en Arnou, nous sommes de Haran. Redonnez trois mots que nous avons analysés. Il s'adresse à eux d'emblée en disant Ahai. Avant de dire bonjour, il dit mes frères, Ahai. Comme s'il allait inaugurer un sermon. Et premier sens, donc premier mot sur lequel nous réfléchirons, mes frères. Qu'est-ce que provoque ce terme? Et ensuite, mais Aïnatem, d'où êtes-vous? Et ils répondent de Haran. Trois mots, Achai, Aïn,
phrase. Je lis un peu la suite. Voyons mère la haine. Alors il leur dit, c'est moi qui ajoute alors, Haïdartem et Laban ben Nahor. Connaissez-vous Laban, fils de Nahor? Selon la question de Jacob, on comprend que Jacob a des raisons de croire que Laban, fils de Nahor, est dans la clandestinité. Il est dans un ghetto quelconque. C'est la civilisation de ce temps-là. À Canaan, il y a la famille de Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, la famille d'Abraham, qui est une famille perdue dans un monde cananéen, si vous voulez. Et puis, on se souvient que cette famille n'est pas sortie de n'importe où, qu'elle est sortie de la famille, d'où elle est sortie d'Abraham, et des sribes, des restes, sont restés à Haran, et en particulier, on a entendu parler de Laban, fils de Nahor, de la famille d'Abraham, mais il doit être sûrement dans un ghetto. Il doit être sûrement clandestin. Cet homme qui vit la vie humaine à la manière de la matrice d'où est sorti Abraham n'est pas à la une des journaux, n'est pas connu. Alors connaissez-vous, avez-vous entendu parler de cet être spécial, le juif de ce temps-là, qui est mon cousin, c'est Jacob qui parle. Est-ce que vous savez qui c'est? Vous avez compris la question? Il répond, Yadarnou, et il répond, nous connaissons. Deuxième étonnement, ça veut dire, alors c'est connu, cette manière d'être. Alors tout de suite, la question de verset 6, la question de Jacob, Bayomer Lahem, alors il leur dit, Hachalom, lo, mais est-ce qu'il est en paix? Vous comprenez le péripétie de la question de ce qui préoccupe Jacob. Alors si déjà il existe, et si déjà il est connu, est-ce qu'il est en paix? Voyons-nous, Shalom. Et ils répondirent, Shalom, il y a la paix pour lui. C'est toute une paraphrase, ils ont répondu un mot, Shalom. Et la fin du verset est vraiment majestueuse. Vehine Rachel Bito Baa Imatson. Et voilà que Rachel, sa fille, vient avec le troupeau. Tu demanderas si nous avons le temps, si ce sont les bergers qui disent ça, il est en paix, et même que voilà, sa fille vient avec les troupeaux, ou bien si c'est le texte, le récit qui dit cela. Et au moment où ils ont dit, il est en paix, voilà que Rachel venait. Vous voyez la différence? Nous verrons d'ailleurs qu'il y a un problème d'ailleurs apparemment grammatical. Bah, vous verrez que l'accent est sous le A, sous le Aleph. Alors que dans la seconde fois où l'expression sera donnée, l'accent sera sur le Bet, Bah. Oh, mais nous verrons ça si nous avons un peu plus de temps. Je le signale simplement pour ceux qui pourront étudier ce problème. Et effectivement, il y a une contradiction entre le fait de dire que la famille de Laban est en paix et que Rachel vient avec le troupeau. Si vraiment cette famille est en paix, comment se fait-il que ce n'est pas un berger? Et si s'occupe du troupeau, il faut que la fille même de Laban s'occupe du troupeau. À quoi ça se réfère? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Non. Très bien, qui a dit j'ai trop? C'est ça. Vous aurez un bonbon sucré. Et c'est exact, c'est très exact. C'est-à-dire, c'est la même scène que nous retrouvons lorsque Moïse s'enfuit d'Égypte, va chez Jéthro, et voilà que Tsipora, la fille de Jéthro, vient avec le troupeau, le Midrash intervient tout de suite. Alors que Jéthro était le grand prêtre de Midian. Il était l'homme de la sainteté de ce temps-là. Et il n'a pas de berger pour s'occuper de ses troupeaux. Alors on apprendra qu'il était en Machloket, en disgrâce, si vous voulez, dans sa ville, dans son temps, dans sa génération. Il est arrivé à un point d'évolution, de rupture avec les hommes de son temps. Et il fallait que ce soit ses propres filles qui s'occupent du troupeau. Bien, et revenons sur le verset 4. Alors la première lecture, la lecture pshat, c'est la lecture positive. Je veux dire, il y a l'expression est une question, d'où êtes-vous? Et il répond, de Haran. Donc immédiatement, de passer cette lecture à l'aide du Midrash, et plus exactement d'ailleurs du Midrash du Zohar, donc vous n'avez pas les citations ici, puisque vous n'avez pas la page, tout simplement, et qui dit ceci, en réalité, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Elle dit, Achai, mes frères, mais Aïn, Atem, vous venez du néant, Aïn, peut vouloir dire où, Aïn, ou bien ça veut dire le néant. Ça veut dire, en réalité, il a fait un cours de théologie, et pas du tout une question de l'aide. Il y a souvent des scènes analogues dans ces rencontres et dans ce découvrement de la rencontre. Lorsque, par exemple, les frères de Joseph, plus tard, rejoindront Joseph en Égypte. Alors Joseph leur demande « Qui êtes-vous ?» Ils répondent « Nous sommes des commerçants. » Il dit « Non, vous êtes des espions. » Vous vous rappelez de ce... C'est-à-dire, vous dites les termes hébraïques. « Batem, Lirot, et Ervat, Haaretz. » Il dit « Vous êtes venus espionner. » C'est comme ça qu'on traduit. D'ailleurs, c'est le sens de la traduction. Mais regardez bien en hébreu. « Batem, vous êtes venus, Lirot, pour voir, Lirot, pour voir, Ervat, Haaretz, la nudité du pays. » Batem, Lirot, et Ervat, Haaretz. Les traducteurs traduisent et ils ont raison, vous êtes venus espionner. Mais regardez la distance entre ce qu'il y a d'écrit en hébreu et ce qu'il y a de lu en français. En fait, rien à voir. Il leur dit, vous avez une mission à accomplir, vous avez fait un cours de théologie, enfin d'historiosophie. Vous avez une mission à accomplir, le pays est dénudé, mais Erva, ça veut dire devenu impudique. Vous entendez tout ce qu'il y a dans cette analyse? Erva, ça veut dire l'impureté de la nudité, et vous êtes venu pour recouvrir l'impureté, la nudité de l'impureté. Rappelez-vous comment commence l'histoire morale dès le premier homme, lorsqu'il découvrit qu'ils étaient nus, et que faire le tikkun, faire la rédemption de cette unité. Donc il leur dit leur programme, vous êtes les enfants de Jacob, alors vous êtes donc venus voir la nudité du pays, faire le diagnostic et savoir comment il faut remoraliser l'histoire sur Terre. Ils répondent dans une espèce de complicité extraordinaire entre eux et Joseph, non, officiellement nous sommes les commerçants. Il dit, Kenim Anachnout. Et la Midrash intervient en disant « Atikre Kenim » Kenim, ça veut dire « Nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. » Cinquième colonne, etc. L'international juif, protocole de sédition, oui, à quoi ça ne fait pas allusion. Et dis donc, nous sommes Kenim, « Atikre Kenim » et la Knaanim. Nous sommes les Cananéens. Mais Knaani, en hébreu de la Bible, ça veut dire des marchands, des commerçants. Ce qu'on dit officiellement des Juifs, et il faut laisser dire ça, nous sommes des intermédiaires. Au niveau théologique, nous sommes des médiateurs. La fonction d'Israël, c'est d'être médiateur des valeurs. Et le langage est immédiatement, simultanément, théologique et bancaire. Aucune allusion à la présidence de votre communauté. Et là, ça, ce sont que des coïncidences. Et puis, là, mais c'est finalement, si vous voulez, d'une certaine manière, le même travail, être médiateur ou être intermédiaire à deux niveaux complètement différents. C'est finalement la même vocation, c'est le même travail. Alors Joseph les provoque en leur disant, bon, vous êtes venus acheter à manger au temps de la famine. Eh bien, mais vous savez ce que vous êtes venu faire, vous, le peuple des bergers. Vous retrouvez ce texte, de nouveau, les bergers. Alors, dites-moi, nous sommes commerçants en grains, et en gros. Il se passe quelque chose de très analogue dans ce dialogue intérieur au dialogue. Et Jacob leur explique quel est le programme qu'il y a à résoudre. Si vous êtes vraiment les bergers au pays de Haran, vous savez ce que ça veut dire être frère. C'est toujours la même équation qui revient. Alors il leur dit, mes frères, mais à une athème, vous venez d'une erreur. Ils répondent, pas du tout. Nous sommes de Haran, nous venons de la colère. Nous venons du pays de la colère. Haran, c'est le sens du mot, c'est Harun, Af, Harun, c'est la colère. C'est comme je vous ai cité les Midrashim, que nous allons lire tout de suite, dans le paragraphe 40 même, Vayetse Yaakov Harana, à la page 1122, et ensuite je reviendrai sur l'explication du problème. Rabbi Yoshua ben Levi, Patar Krab Galouyot. Rabbi Yoshua ben Levi, dans son enseignement, a expliqué ce verset en se référant au thème des exils. Vayetse Yaakov, Jacob est sorti, Kema de Atamar, c'est comme lorsque tu lis cet autre verset qui se trouve dans Jérémie, chapitre 1, verset 12. Asher Roga, Asher Beyom Haona. La catastrophe que Dieu a prémédité au jour de sa colère. Ça veut dire que Haran, c'est un mot qui véhicule cette notion de début de la catastrophe parce qu'il y a une colère. Alors essayons de comprendre ce dialogue qu'il y a entre Jacob et les bergers de Haran. Eh bien, je choisirai un terme d'explication, mais il pourrait y avoir d'autres approches possibles. En trois mots, Jacob leur donne le programme de son identité juive. Nous sommes des frères, c'est-à-dire que le problème que nous avons à résoudre, c'est le problème de la fraternité, de la relation du frère au frère. Et quel est le fondement de ce problème? C'est que nous venons du néant. C'est-à-dire, nous avons été créés. La notion de néant, Aïn, renvoie toujours en catégorie théologique à la notion de Beria, Yesh Me'aïn. Nous venons du néant, c'est-à-dire nous avons été créés, nous avons reçu l'être d'un créateur. Et le problème que nous avons à résoudre dans notre histoire, c'est d'aménager la relation de coexistence des différentes créatures. C'est-à-dire, la relation de ces deux mots dévoile toute la conception morale de la théologie de l'histoire selon l'enseignement de la Bible. Par le fait que nous avons été créés, alors, inévitablement, un problème se pose entre nous, les créatures, aménager la relation de coexistence des créatures entre elles. Dieu nous donne l'être, ça c'est la part du travail que Dieu fait de Dieu à l'homme, de donner l'être à chacun, mais voilà que ces chacun, ensemble, sont en compétition de réception d'être entre eux. D'où le fait que le problème qui se pose à l'histoire, c'est le problème moral de la relation de fraternité. C'est, à un certain niveau, bien précis, essentiel, en tout cas, l'ensemble des indications que le Midrashim nous donne à ce sujet. Il leur explique quelle est son identité, la manière dont il conçoit l'histoire. Et c'est effectivement le fondement même de la conception juive de l'histoire. Nous sommes des créatures et nous avons le problème moral à résoudre. Les bergers de Haran vont répondre avec une toute autre théologie. Est-ce que jusque-là, c'est bien clair? Toi, Jacob, tu as une manière d'expliquer l'histoire, qui est le judaïsme, d'ailleurs, la destinée du déroulement de l'histoire, c'est d'abord à résoudre le problème moral, et la théologie de base, c'est la théologie de la création. C'est parce que nous sommes des créatures que nous avons ce problème à résoudre. Mais ils répondent avec un mot, « Mecharan anachnu », nous avons, nous, une toute autre explication. L'état des choses, la rivalité, la guerre, l'impossibilité de se mettre tous ensemble à lever la pierre qui cache le puits, etc. Eh bien, ça vient de ce qu'à l'origine, il y a une grande colère. Et nous retrouvons là la théologie du péché originel. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais c'est sûrement une grande colère qui explique l'état des choses. Et nous avons ici en court-circuit, si vous voulez, presque en collision de concepts, le dialogue permanent, l'interpellation permanente entre Israël et les nations. Bien entendu, nous connaissons la théologie du péché originel, surtout sous sa forme chrétienne, mais elle ne fait que récapituler ce qu'a été la théologie profonde de toutes les religions païennes. Si vous voulez, c'est projeté sur le langage biblique par la théologie chrétienne, l'intuition fondamentale de l'humanité païenne. Qu'est-ce qui explique l'état de l'histoire? C'est qu'à l'origine, il y a eu une catastrophe. Le monde, c'est l'exil de l'homme. Et à l'origine de cet exil, il y a une colère d'un Dieu. Les païens ne savent pas dire le Créateur, et les chrétiens tout juste. Vous avez remarqué qu'ils ont besoin d'un relais entre le Créateur et l'homme. Bon, je ne veux pas trop ouvrir de parenthèse sur le christianisme, j'ai encore mon relais. Mais il me semble que sur ce point, la théologie chrétienne est récapitulative de l'intuition théologique païenne, qu'elle projette sur le récit biblique de la faute du premier homme. Et elle a rencontré dans l'histoire l'homme exemplaire de sa propre théologie, c'est-à-dire Israël, celui dont la condition historique est d'être exilé. Et comme sa théologie, c'est que nous sommes exilés d'un paradis à cause d'une colère, alors elle projette sur l'histoire d'Israël, en la mythifiant, cette histoire de la colère originelle qui explique l'histoire de l'exil. Mais l'exil étant l'identité théologique de l'homme, selon la problématique chrétienne. Est-ce que c'était pas trop compliqué tout ça? Et alors, elle trouve effectivement dans les sources du peuple hébreu un récit qui ressemble, c'est-à-dire la faute du premier homme. Et quelle que soit l'importance, la gravité de cette faute du premier homme, la théologie juive a toujours considéré que ce n'était qu'une péripétie qui a compliqué le chaos originel, mais qui n'est pas la raison du chaos originel. Et je reprends très brièvement ce thème, une parenthèse quand même importante, et puis nous avancerons dans le récit. C'est le fait qu'il y a à l'origine un état chaotique de la création que l'histoire a pour objet et a pour perspective d'organiser et de mener à son terme. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était, selon Babourou, à l'état de chaos. De cet état de chaos originel procède tout un ensemble de traces de désordre dans le monde, je dirais d'une certaine manière, dont en fin de compte personne n'est responsable. Ni le créateur, ni la créature, tout ceci étant destiné à se résorber, à se récapituler et à s'évacuer. Et une fois dans la perspective de l'optimisme biblique, quand l'histoire du monde atteint son aboutissement, nous avons un peu étudié cela aussi l'année dernière avec le livre de Job, vous vous rappelez, l'explication de Maïmonide sur la cause des tourments de Job. Je ne sais pas d'ailleurs si nous étions arrivés à ce point, peut-être on refera un jour séminaire historique. Et intervient la faute au commencement de l'histoire. Alors, cette faute, qui est la désobéissance, ne pas accepter comme projet d'organisation du monde le souhait, la volonté, dans le sens du projet du Créateur lui-même, et y substituer un projet humain quelconque, humaniste, dans le sens étymologique, ce qui est l'essentiel de la faute du premier homme, paradoxalement, et c'est le vocabulaire ici est plein d'humour, si je dis, le premier homme était un humaniste. C'est-à-dire qu'il a voulu substituer un projet humaniste au projet du Créateur. C'est la faute de désobéissance, telle qu'elle nous est écrite, de façon très claire. Alors cette faute a des conséquences larges, mais c'est une péripétie compliquante qui complique le désordre antérieur. Et à l'origine, il n'y a pas de colère, il y a une création. Et, est-ce que c'est bien clair? Oui, quelle est la controverse ici? Jacob leur dit, mes frères, vous venez du néant, nous avons le problème moral. Et c'est très essentiellement construire la solution de l'équation de fraternité dont la charte est la Torah, en fin de compte, au niveau de la loi morale. Je pense que c'est simple à comprendre. Ils répondent pas du tout. Nous avons une toute autre théologie. Nous venons du fait de la cause. Et il me semble extrêmement clair que ceci rend compte et démystifie en même temps, d'une certaine manière, de la manière dont la théologie chrétienne du péché originel récapitule l'intuition tragique, fondamentale, existentiellement tragique, de la religion païenne. Il y a une colère de Dieu à l'origine, incompréhensible, mystérieuse, mais il faut bien en tenir compte et avoir une stratégie de, comment dirait ici le psychologue, une stratégie de pius, de pius. Les païens, de conjuration, une stratégie de conjuration dans le sens de quelle est la traduction de pius? Apaisement, oui, faire la paix, les païens. D'ailleurs, pius en latin ça veut dire pieux, mais bon, c'est une coïncidence. Je parlais de pius en hébreu. Je ne sais pas auquel des pius il se trouve, là, 12, 13. Bien. Nous voyons dans quel état Jacob sort de Beersheba et il va à l'endroit de. À l'endroit où le problème est ainsi posé. D'une certaine manière, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi la famille d'Abraham est arrêtée à Haran. Elle est arrêtée à Haran par la théologie de Haran, si je dis. Elle ne peut pas pénétrer en Eretz Israël. Seul Abraham et Lot, chargés du problème de la fraternité, vous rappelez qu'Abraham dit de Lot qu'il est son frère, et la Torah dit qu'ils se ressentent comme des frères, et vous rappelez de toutes les indications que la Torah nous donne. Bien. Alors, disons le verset suivant. Vaïflar Bamako. Il se heurta à l'endroit. Vaïel et Cham, et il passa la nuit là-bas. Qui va à Shemesh, parce que le soleil s'est découché, Baïkar m'est amené à Makom, et il prit des pierres de l'endroit, Vayasem Mera Shotar, il les plaça ou il emplaça comme oreiller, c'est la traduction habituelle, bien comme une sorte de. Comment disons cela quand on accumule des pierres. Une sorte de rempart pour protéger sa tête. Nous verrons d'ailleurs en éveil, c'est en hiérarchie. Vaïshka, dans ma commune, et ils l'ont mis dans cet endroit-là. Ce n'est pas exactement il dormit, c'est il se coucha. je vais tout de suite enchaîner sur ce que nous étudierons plus en détail demain et après-demain. Vaya Chalom et Ureva, verset 10. Vehine, et voici, sous la Mitzavarsa, une échelle, etc. Et nous voulons que, pour pouvoir mieux comprendre les citations que nous donne Rashi et les commentaires à ce sujet, nous verrons qu'il y a quelque chose de plus que ce que donne la traduction habituelle. La traduction habituelle, nous allons essayer de serrer le texte très exactement, on dit ceci. Il rêva, et voilà ce qu'il y avait dans son rêve. Et dans son rêve, il y avait une échelle, etc. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit, il rêva, alors il y a eu une échelle. Mais le texte ne dit pas que c'était dans son rêve. Revois du bien le texte. Vaya Chalom, il rêva, Vehine, et voici une échelle se dirigea vers la terre. Presque de science-fiction. Et nous avons, pour avoir une comparaison avec ce qu'il y a dans la paracha de Niket, qu'on a lu ce Shabbat d'ailleurs à la Torah, à propos des rêves du pharaon. Et lorsque le pharaon raconte ses rêves, il dit j'ai rêvé, et Bahaloni, et dans mon rêve, j'ai lu ceci. Mais il y a bien un rêve, mais tout se passe comme si nous ne savons pas ce qu'il y a dans le contenu du rêve. Mais nous savons ce qui se passe dans la réalité historique, objective du monde extérieur, si j'ose dire, à l'occasion du fait que Jacob rêve. Alors, bien entendu, on ne pourra pas se débarrasser complètement de la première lecture. Et nous verrons que certains midrashim expliquent comme si ce qui se passe là se passe dans le rêve, et qu'il s'agit donc d'une sorte de rêve prophétique, de prémonition. Prophétique, de l'ordre de la prophétie, qu'il voit comme à travers un rêve, ou à travers un rêve, mais ce qui se passe dans la réalité. Je ne sais pas si la formule précise à partir de laquelle j'essaie de conduire ces analyses. C'est la première fois que quelqu'un rêve, alors il y a communication entre la terre et le ciel. Et bien sûr, ce n'est pas la première fois que quelqu'un rêve. Mais, par exemple, nous aurons à nous référer à une péripétie du rêve d'Abimelech. Lorsque Abimelech, après l'incident avec Sarah, vous vous rappelez, a une révélation dans le rêve, alors le texte dit « Bachalom al-Laila » dans le rêve de la nuit. Mais ici, il n'y a pas cette notion de rêve de la nuit. Il y a « Bayachalom » et il rêva. Alors, il y a eu une échelle. Est-ce que je suis arrivé à changer de récit? Vous avez compris la différence? C'est-à-dire qu'il rêve, et alors l'histoire peut commencer. Il est capable de rêver, et alors cette histoire peut commencer. Cette histoire où il y a communication entre la terre et le ciel, et alors c'est la prière qui commence, c'est la prophétie qui commence. Nous verrons que notre Midrashim nous dit, alors on peut construire le temple des sacrifices. C'est le Sinaï, la révélation, et cette même structure des barreaux de l'échelle et de la circulation d'être entre la terre et le ciel, et le ciel et la terre, peut s'installer, peut commencer, parce que Jacob est capable de rêver. Et donc, qu'est-ce qu'il faut entendre dans cette notion de rêve ici? C'est pas les images que nous avons pendant la nuit, ça aussi c'est un. Ça s'appelle rêve, ça s'appelle halom, mais ça c'est plutôt cauchemar, si vous voulez. C'est-à-dire le fait que les images reviennent plus ou moins combinées, plus ou moins agencées, voulant faire entendre, faire voir quelque chose de plus ou moins clair, ou de plus ou moins obscur. Ça c'est le halom al-laila, ça c'est le rêve à l'intérieur du sommeil, d'une certaine manière. Mais ici, il s'agit de toute autre chose. Alors, il est capable de rêve et l'histoire va commencer. Et on a indiqué la convergence, si vous voulez, entre le plan de la nourriture corporelle, l'echem, ou la coïncidence des lettres, mais il y a plus que la coïncidence des lettres, où le corps se nourrit de l'echem, de pain, mais l'âme se nourrit de rêve. n'est pas dans le sens du rêve romantique, enfin du rêve poétique, du rêve de la rêverie, mais d'un rêve. Je crois que c'est inutile de commenter plus, vous avez compris, c'est-à-dire d'un projet. Je ne veux pas dire d'un idéal, c'est encore pas ça, non, parce que c'est aussi ça, mais plus que ça, de ce qui va donner la capacité prophétique au peuple descendant de Jacob. Et toutes ces références qui nous indiquent que le rêve et le 60e de la prophétie doivent être prises plus profondément, parce que c'est de l'ordre de la prophétie. Mais pas n'importe quelle sorte de rêve. Et en réalité, c'est la prophétie qui est de l'ordre du rêve. Et vous aurez une référence qui indique que pourquoi Dieu se révèle en rêve à Jacob et non pas en prophétie lucide, comme ce sera le cas au niveau de Moïse, les yeux ouverts. Et alors, le texte répond parce que Yaakov, à ce moment-là, était encore Tiron Banaboua, apprenti en prophétie. Il n'était encore qu'élève, qu'élève prophète, si vous voulez. Alors, c'est au niveau du rêve. Son père est encore vivant, son grand-père est encore vivant. Le cycle Jacob n'a pas vraiment commencé. Il est en apprentissage. Alors il voit ça à travers le rêve. Mais c'est le sens de la catégorie du rêve ici qui est extrêmement important. Et retenez, si vous voulez, les mêmes lettres de l'Echem et de Chalom. Vous pouvez paraphraser un peu Kilo à la Lechem et Vado et Adam. Il faut aussi le Chalomot. Ça veut dire que ce n'est pas de pain seul que l'homme peut vivre, il faut aussi du rêve. Vous vous rappelez de cette histoire chassidique que j'aime beaucoup raconter, et que j'ai sûrement raconté aussi ici. C'est un tzadik qui demande à un de ses fidèles, un rabbin qui demande à un de ses élèves, de quoi vis-tu? Vous vous rappelez de cela? Et alors l'élève répond, l'enfant de juif répond, je suis boulanger, et j'achète de la farine, je fabrique des gâteaux, et puis je les vends, et puis avec cet argent, j'achète de la farine, je fabrique des gâteaux, je les vends avec cet argent. Alors le maître lui répond, je ne demande pas quoi tu perds ton temps, je demande de quoi tu vis. Et en fin de compte, le juif a fini par comprendre. Je pense que vous avez compris aussi, ça n'a rien à voir. Il a demandé qu'est-ce qui t'a fait vivre. Ça veut dire quel est ton rêve. Alors il répond, non, mais je fabrique du pain pour les autres. Et vous voyez cette espèce de décalage de niveau. Il lui a posé une question de Chalom, et l'autre lui a répondu une question de l'Echem, de pain. Il y a aussi d'autres niveaux, mais enfin, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire un nefesh, une personne qui n'a pas à se nourrir d'un rêve, ne rit pas. Mais il ne s'agit évidemment pas du rêve de l'analyse. Voilà. Et il s'agit, ce qui est le déchet, si vous voulez dire, du rêve dont nous parlons. Ceci donc nous permettra de nous approcher à travers cette introduction de la raison pour laquelle nous aurons à voir que les machines parleront du contenu de ce rêve. Alors maintenant je reprends le terme de rêve dans le sens classique, en donnant des exposants différents. Soit le rêve de la prière monte en demande et revient en bénédiction, soit le rêve de la révélation, Moïse monte jusqu'au haut de la montagne et la parole descend, soit la fumée de l'encens des sacrifices qui monte et la rédemption descend. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a réalité, au niveau de l'identité de l'histoire d'Israël, réalité de cette communication entre la terre et le ciel et la terre, eh bien c'est cela, ce rêve de Jacob, mais cela n'est possible que parce que Jacob est capable de rêver. Et avec comme problème principal, bien évidemment, le fait que dans ce rêve, encore une fois, sur cette échelle, on voit que les anges montent d'abord et descendent ensuite, alors qu'en réalité, ils auraient dû descendre d'abord. C'est un rêve normal, si vous le faites. Eh bien, ils auraient dû descendre d'abord et remonter ensuite. Et nous avons d'ailleurs des surprises avec les différences. Bien, alors nous allons revenir à notre verset, qui est le verset 11. Et, si vous voulez prendre 5 ou 10 minutes, si vous avez des minutes à... La notion de dévoilement, de révélation qu'il y aurait dans le rêve viendrait d'en haut d'abord. Un ange, on ne sait pas encore ce que c'est qu'un ange, mais enfin, un ange normal se trouve dans le ciel, qu'est-ce qu'il va faire sur terre? Alors, un ange normal descend du ciel et remonte ensuite. Mais ça, ce sont des anges anormaux. Mais, oui. Pardon, oui. Plus fort, je m'en
vous avez parlé du produit venu de l'autre, et là, si vous voulez, je vous
oui, mais écoutez, je reprends cette première question qui est d'ailleurs assez commune. Il est, lorsque j'ai employé le terme de humanisme pour définir ce que la tradition juive, elle, entendait par la définition de la faute du premier homme, je vous signale d'ailleurs qu'il y a un excellent article de Van Getschel dans le livre sur Rachid qui fait allusion à cela, vous le verrez très, très en détail. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que l'analyse descriptive de la notion de faute dans le contexte biblique hébraïque. Quand je fais quelque chose d'autre, et donc à la limite contraire à ce que l'ordre de vérité demande, eh bien ça veut dire que je substitue ma volonté à celle de la loi. Ça veut dire que je n'agis pas comme la loi me demande, mais comme moi je veux. C'est ça là. La définition formelle de toute faute. Vous voyez, dans le minimum formel commun à toute faute, il y a premièrement cette faute. Et d'une certaine manière, formellement, comme dit dans le sens du vocabulaire de Kant. Et d'une certaine manière, si vous voulez, c'est la faute de l'origine de toute faute. Mais il faudrait prendre ça à un tout autre niveau. Ce n'est pas qu'à l'origine de l'histoire, il y a une faute catastrophique qui mais le commencement de toute faute, c'est la faute de désobéissance formelle en termes bibliques. Ça veut dire, je ne veux pas agir comme Dieu me demande, j'agis comme moi je veux. C'est ça la faute. Or, ça veut dire, il y a une histoire à faire, mais les critères vont procéder de moi à l'homme, et non pas de la volonté transcendante de Dieu. Ici, je serai plutôt en dialogue, je serai sûrement en dialogue avec, enfin, en polémique, avec Robert Mizrahi, si vous avez lu sa philosophie. C'est très exactement cela. Il y a appropriation par l'homme des critères de la transcendance. Et c'est ça l'humanisme. Bon. Alors, bien entendu, je ne critique pas ici l'humanisme dans ses actes positifs, dans son projet positif de promotion de l'homme, de promotion de la dignité humaine. Mais je me sers, si vous voulez, la catégorie humanisme pour définir ce qu'est la faute du premier homme, d'après la théologie juive, plutôt. Et alors, il faut donc substituer bien que ici, le problème du vocabulaire et des mots doit être réadapté à chaque école. Et là, je réponds à la question de M. Amserem. Il faut substituer, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs, la notion de la faute à celle du péché. Parce que la notion de péché, ça veut dire que ces manquements à la loi n'ont plus de tikkun possible, n'ont pas de rédemption possible à vue humaine ou à l'échelle humaine. Ça procède d'une colère. Pour reprendre le vocabulaire de tout à l'heure, ça procède d'une colère. Aucun sacrifice ne peut arranger cela, sinon le sacrifice de Dieu lui-même. Et alors, d'où le mythe chrétien qui nous fait vivre cela. Parce que, bien évidemment, aucun homme ne peut être surhumain, selon la Bible, sinon Israël. Alors donc, on va faire ça à Israël. Et puis, les chrétiens lisent la Bible. Et donc, qui va être le porteur de sacrifice? Eh bien, ça va être Israël. Alors, on fait vivre à Israël cette histoire-là. Et avec une propagande tellement organisée, jusque dans le détail, qu'en fin de compte, les Juifs se persuadent eux-mêmes que c'est ça qu'ils ont à faire dans leur histoire, et ils le font. Oui, jusqu'où ça va. Bon, en fait, on va à un autre chapitre. Mais il substitue la notion de faute. C'est-à-dire, il y a manquement à la loi, eh bien, ça peut s'arranger. Vous voyez ? Tandis que péché, dans ce sens-là, et dans son sens magique, péché, on est perdu. Et vous voyez, on retrouve le dialogue entre Jacob et ses bergers. Jacob et Élie, tous les deux sont d'accord qu'un problème très difficile à résoudre. Le monde est dans un état incompréhensible, mais un désordre effroyable. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là ? Et surtout au niveau de la relation humaine, les bergers. Alors, Jacob leur dit, mais bon, c'est un problème très compliqué, mais c'est pas grave. C'est le problème de la création. Et c'est donc le problème moral. Il y a une atmosphère, si vous voulez, optimiste, a priori. Après tout, on peut devenir frère, et donc, on peut avoir la paix. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait en filigrane dit. Mais à partir de quoi il y a cette certitude que c'est possible? Parce que notre problème, c'est pas d'être maudit à l'origine par une colère cosmique, c'est tout simplement d'être des créatures en compétition d'être. Alors ça peut s'arranger si on a un mode d'emploi, ce que nous, les Juifs, appelons une Torah. Ouais. Mais cette mentalité tragique, magique, de la découverte du problème du désordre dans une perspective où il n'y a pas de solution. Ça, c'est la notion du péché originel dans ce vocabulaire que rien à vue humaine ou à capacité humaine ne peut ordonner. Il faut qu'il y ait un acte magique qui nous sauve de cela, c'est-à-dire, en fin de compte, le sacrifice de Dieu à travers Israël. Je pense que j'ai eu raison de poser la question de cette manière. Bien que le mot de péché traduit le mot de péchar en hébreu, et qu'on devrait, par analogie verbale, se servir du mot de péché pour dire péchar, c'est une catégorie de faute. Ce mot de péché, c'est tellement chargé de signification chrétienne qu'il vaut mieux le situer, tout simplement, la notion de faute. Et il y avait une deuxième question sur l'imagination et l'imagination créative. Vous savez, ça c'est l'imagination qui, en fin de compte, débouche sur la conscience esthétique, enfin sur le projet artistique. Mais ce rêve dont il est parlé ici débouche sur un projet historique, sur un projet prophétique. Moi, je ne suis pas contre du tout l'imagination créative, mais ce n'est pas mon problème. Je me dis, moi, juif, c'est le problème de l'artiste, de l'homme de la beauté. Et il peut y avoir un artiste juif. Pourquoi pas? Mais le métier de juif n'est pas le métier de grec, si j'ose dire. C'est pas l'option esthétique. Le métier de juif, c'est l'option prophétique. C'est-à-dire le rêve de l'histoire. Et ce rêve de l'histoire peut être très beau. Et ça n'empêche. Voilà, après tout, pourquoi l'histoire ne serait pas belle? Mais c'est un autre domaine, c'est un autre problème. Mais je sais pas. Vous comprenez? Alors, il y a là quelque chose qui peut-être peut ressembler à cette émergence de créativité à travers l'imagination et donc artistique, mais c'est dans toute autre forme. Et là, chez Spinoza, vous verrez dans le traité théologico-politique, quelque chose que Spinoza n'a pas très bien compris, ou en tout cas, comme lecteur, on comprend pas très bien ce qu'il veut dire, lorsqu'il se sert d'un verset qui définit la prophétie comme étant de l'ordre de l'imagination, ou bien « anevim adamé ». Comment traduire ça ?« Bien anevim adamé ». Dieu dit, parlant de la prophétie, « C'est par la main des prophètes qu'on me trouve des comparaisons. Les prophètes parlent de moi avec des images. » J'ai une manière comme ça, imayon. C'est autre chose. C'est-à-dire que les prophètes sont ces hommes qui sont capables d'identifier de quoi parle le sens de la révélation. Le prophète parle à l'imagination, mais dans le sens d'identification. Il comprend ce qui se passe dans l'histoire. Vous voyez la différence entre le haram et le nabi. Le haram, le sage, comprend avec le sens abstrait, tandis que le prophète voit concrètement. Et donc, le corps adimayon, l'imagination dans le sens étymologique, joue un très grand rôle dans la prophétie. C'est un rôle d'identification. Mais ça n'a rien à voir avec l'imagination artistique, bien que formellement, la créativité dont vous parlez est de cet ordre. Est-ce que c'est Émile, je ne vais pas terminer, est-ce que c'est suffisamment clair là? Oui. Bien, oui. Attendez, qui d'abord? Il y avait un ordre. C'est vous. La nudité, vous vous rappelez, les rappels, c'est-à-dire mettre un couvercle, capoter.